Grégoire Postelvinet. J'avais en fait deux questions, l'une sur l'immigration choisie et l'autre sur les femmes. Sur la première, il me semble qu'il y a une confrontation entre un mythe, qui est, enfin, un mythe ou une réalité républicaine qui est de l'égalitarisme, et la deuxième qui est que les principaux États industriels se précipitent pour attirer chez eux les meilleurs. Et donc on a le choix entre faire passer dans la même file le Malien qui revient très longuement pour ne pas avoir de tampon à la préfecture et un futur prix Nobel, ou bien d'avoir des tuyaux différents. Mais dans ce cas-là, si les tuyaux sont différents, la question de l'égalité se pose de manière un peu difficile, ou en tout cas les critères pour cela doivent être clarifiés suffisamment. Donc ça, c'est un premier aspect. Comment est-ce que c'est vécu? Comment est-ce que ça peut évoluer? Et le deuxième, tout en pensant aussi que la population musulmane a d'immenses diversités, je pense au verset 34 de la sourate 5, mais il y en a quelques autres, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc des habitus au sens de Thomas d'Aquin concernant cela, il y a tout de même des différences très notables par rapport à ce qui a été à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme. Alors c'est vécu bien dans un certain nombre de cas. La Tunisie, la Turquie ont une constitution laïque qui permettent de vivre bien. Arriverons-nous à maintenir cela de manière suffisamment efficace et qui tienne par rapport aux règles concernant la monogamie et à d'autres pratiques, ou pas? Et que faut-il faire pour que cela se passe de manière paisible?
Premier point, le tri des immigrés, si je puis dire. Il est fait dans beaucoup de pays, il est juridiquement fragile et il est surtout pratiquement impossible. Il faut bien avoir conscience que la vision on va prendre les bons et écarter les mauvais est une vision qui simplement n'est pas opérationnelle, même si l'envie existe dans un certain nombre de pays. Le second point, les droits de l'homme ne doivent pas être négociés, je le dis et je le redis, mais je voudrais quand même rappeler que les femmes ont eu le droit de vote en Turquie avant la France, alors que la Turquie est un pays musulman à 97%.
John Gaynard, je suis professeur à l'Open University Business School au Royaume-Uni. Et je suis aussi consultant. J'ai deux ou trois petites choses à faire. Premièrement, pour mon ami flamand, je devrais dire que dans le livre d'Harry Barnes qui s'appelait « L'étrangeté française », c'était beaucoup moins étriqué, je dirais, que ce débat ce soir. Donc il explique ce que c'est d'être un bon citoyen allemand, ce que c'est d'être un bon citoyen français, un bon citoyen américain, un bon citoyen britannique. Donc c'est un livre qui couvre un champ énorme. La logique de l'honneur, on a parlé de l'opacité de la France. La logique de l'honneur de Derry Band m'a permis à moi personnellement de comprendre que la CGT a une certaine logique de l'honneur, la CFDT a une autre logique de l'honneur, le patronat français a une autre logique de l'honneur. Et effectivement, en tant qu'étranger, des fois on se demande mais pourquoi ils sont en train de se battre entre eux, mais chacun est en train de défendre ce qui est noble et ce qui est vil à l'intérieur de sa profession. Et aussi, j'aimerais dire, c'est qu'il me semble assez bizarre que, parce qu'en France, en français, nous avons la chance de pouvoir lire des grands penseurs arabes. Et la dernière personne qui a essayé de penser la modernité en dehors du modèle occidental, c'était Abdelkader. C'est la lettre qu'il a écrite aux Français en 1842. Il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui qui œuvre pour aider les gens à faire sens de ce qui se passe en Europe. C'est Tariq Ramadan, qui est presque interdit de citer à la télé, mais qui enseigne au Royaume-Uni, à Oxford, sans aucun problème, qui est appelé par la BBC, qui est appelé par les chaînes de télé américaines et britanniques quand il s'agit de mener des problèmes. Et donc, il y a des penseurs arabes qui pensent aussi, qui essaient de retrouver le sens dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a un autre sujet qu'on pourrait aborder qui est presque la même chose, c'est la perte de repères, la perte de code dans le management français. Et c'est quelque chose que Derry Band nous aide à comprendre, parce que là, quand on comprend la logique de l'honneur en France, ce qui est un métier, parce que quand on dit en anglais « trade », ça ne veut pas dire métier. Ça ne veut rien dire du tout. Un tradesman en Angleterre n'est pas quelqu'un qui a un métier comme en France. Et donc, quand on voit quelqu'un qui a un métier, qui est confronté, mettons, par une évaluation annuelle, par un manager généraliste qui essaie de lui enseigner ce que c'est son métier, cette personne-là refuse. Donc, tout ça, c'est des codes. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on parle de ces jeunes dans les banlieues et ainsi de suite qui cherchent les codes. Les codes existent. Mais j'ai un peu l'impression, des fois, que Derry Barnes est un prophète qui n'est pas reconnu dans son propre pays. Donc, on utilise ces codes dans les universités américaines, anglaises, pour expliquer beaucoup de sociétés. Et ici en France, on cherche encore, parce que la culture française, c'est quoi? Mais si on n'a pas des repères concrets, des leçons à donner. Je termine là, mais la seule dernière chose que je dirais, c'est qu'on a parlé de l'éducation, de l'éducation nationale. Je ne suis pas d'accord. Les professeurs en France, comme Philippe Derry Barnes a dit, en 1870, petits Auvergnats, petits Bretons, il fallait qu'ils parlent français, il fallait qu'ils apprennent à écrire, les mathématiques, ainsi de suite. Aujourd'hui, chaque nouveau gouvernement a donné de nouveaux devoirs aux enseignants en France. Donc aujourd'hui, ils sont responsables de l'intégration au collège. On leur demande de faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Mais en même temps, je dirais depuis une cinquantaine d'années, chaque fois qu'on a présenté un nouveau défi à l'éducation nationale en France, les professeurs se sont adaptés beaucoup plus vite qu'on aurait pu le penser. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment penser autrement. Il faut vraiment demander qu'est-ce qu'on demande aux profs ? Est-ce qu'ils ont été formés ? Est-ce qu'ils ont les codes à enseigner aux gens pour qu'ils puissent comprendre la société française ? Merci beaucoup.
J'ai oublié de dire tout à l'heure que vous pourrez vous procurer à la sortie les trois livres que j'ai cités d'entrée, mais vous pourrez aussi commander La logique de l'honneur, L'étrangeté française et quelques-uns des autres ouvrages de Philippe Diribande qui aident à décrypter notre société et quelques autres. Voilà, c'était une publicité gratuite, si tu veux, non ?
Je suis dans un tel état de rougissement que je ne saurais répondre.
Alors, Laurent Sedel.
Laurent Sedel, je suis chirurgien à l'hôpital Lariboisière à Paris, orthopédiste, et je reçois beaucoup d'urgences. Je voudrais juste dire, d'abord, c'est extrêmement intéressant ce débat. Ensuite, je le trouve quand même assez pessimiste, et ce n'est pas mon vécu. Le vécu dans un hôpital, c'est un bel exemple, en fait, d'intégration et de diversité. Et ça, c'est vrai aussi bien au niveau des soignants, qui viennent vraiment de beaucoup d'endroits différents et de beaucoup de cultures différentes, et des patients, qui représentent presque la terre entière, puisqu'on reçoit de plus en plus de gens d'Asie ou de pays très, très, très éloignés. Et ça marche. Alors la question que j'aimerais poser, c'est, je crois, que quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est la disparition du service militaire. Pour l'avoir vécu, moi j'ai trouvé que c'était quand même un élément d'intégration assez fort. Alors on n'en parle plus, je ne sais pas pourquoi, même si c'est un peu autoritaire et ça ne se fait plus de parler de ça. Mais ça pouvait être effectivement un moyen, alors est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par un service civil, mais dans ce service, toujours penser non pas au but, mais au fait d'intégrer des jeunes à un certain niveau, à un certain âge, et de leur faire comme ça aimer la France. Et...
Le général des banlieues que j'ai cité tout à l'heure faisait quelque chose de cet ordre. Il faisait même faire des séjours des jeunes beurs qu'il avait dans des unités de marine, et ça marchait très très bien.
Je voudrais faire observer qu'en effet, l'absence de service militaire fait que le petit Français ne se sent pas véritablement Français parmi les autres Français, parce qu'il ne les voit pas. Mais il se sent mondial. Par ceux qui en ont les moyens, ils voyagent sur toute la Terre et ils ont 60 chaînes à la télé, Internet, des films et des DVD qui proviennent de partout, de sorte que l'idée que l'on se fait de sa nationalité aujourd'hui est très différente de celle que l'on pouvait avoir quand on avait tout juste la radio.
Un mot sur le pessimisme, vous avez tout à fait raison, enfin, mais ce qui est frappant, c'est l'extraordinaire hétérogénéité des destins. À la fois, on a tout à fait, comme vous le dites, à l'hôpital, et toute une partie de la population qui est tout à fait parfaitement intégrée, qui accède à des positions de responsabilité et qui se sent tout à fait à son aise, disons, dans la société française. Le problème, au fond, que l'on évoque, vient de ce que, alors que dans les vagues précédentes d'immigration, au fond, cette partie qui ne faisait pas problème, au fond, était quasiment l'ensemble, disons, de la population, qui devenait très vite dans une situation indiscernable par rapport aux autres, qu'on a simultanément une telle différence des destins depuis ceux qui sont vraiment, comme vous le disiez, tout à fait bien intégrés, jusqu'à quand même, disons, des parties dans lesquelles on voit, à travers des choses comme le taux de chômage, par exemple, ou à travers ce que disait Louis Schweitzer en ce qui concerne les discriminations à l'embauche, les discriminations par rapport à des logements, des difficultés considérables. Donc on a les deux. Et donc, au fond, il faut expliquer à la fois pourquoi certains réussissent tout à fait et pourquoi d'autres ne réussissent pas. Alors, ce qui du reste, parenthèse, montre que si on pouvait expliquer simplement la chose par le fait que la société française serait globalement hostile aux immigrés, discriminante, etc., si c'était ça, on n'aurait pas toutes ces populations qui réussissent tout à fait bien. Donc, le fait même que vous citez montre à tel point, c'est plus compliqué.
Henri Zimnevich, professeur d'université. Monsieur Diribande, vous nous offrez un regard de sociologue dans votre livre. Et je me demande si le regard de l'historien de l'immigration, Muriel par exemple, ne compléterait pas avantageusement votre analyse, parce que ce roman de l'immigration et d'intégration heureuse, alors bien sûr, mon histoire familiale permettrait de la nuancer, et je pense qu'elle ferait apparaître que cette intégration, en fait, elle est le fruit d'une lutte, d'une bataille, d'un travail. Ce n'est pas quelque chose qui se donne naturellement. J'entendais il y a peu Le Pen expliquer devant Demorand que, oui, juridiquement, un Arabe avait exactement les mêmes droits qu'un Français, mais pour lui, un Français de souche, on lui devait une considération plus grande. C'est des propos, bien sûr, qui, je pense, beaucoup s'insurgent devant cela. Et donc, c'est davantage par un travail de chaque moment et à renforcer ce message. Bon, bien sûr, à cette tribune, Louis Schneider a fortement rappelé, je le remercie.
Tout à l'heure, j'avais dit en introduction que les choses ne se faisaient pas facilement au début. Comme il y avait la télé, j'ai polissé mon propos, mais j'aurais pu dire, il faut se rappeler qu'on parlait des Polacks, des Rital, des Portos, etc., pour montrer qu'il y avait des moments où les rapports étaient particulièrement rudes. Mais ça s'est fait, et souvent, ce qui est frappant, c'est ce que dit Philippe Diribarne dans son livre, il y en a qui ont gardé leur nom d'origine, mais un prénom très français, et qui parlent d'une manière française indiscernable des autres. Alors oui, madame.
Je m'appelle Liana Novicki, je suis professeure d'université et je travaille sur ces mêmes questions. Je vous lis depuis des années, je connais tous vos livres, je suis ravie de vous rencontrer, de débattre. Et je suis frappée par un point qui m'interroge depuis des années sur ce modèle républicain et sur ce refus que je rencontre toujours dans mon identité double polonaise et française. J'ai gardé la double nationalité. Devenu maintenant professeur de l'université française et donc fonctionnaire de la République, je suis frappée par l'aspect idéologique. Il y a ce débat sur ce modèle républicain, et comme j'ai souffert d'un modèle idéologique de l'Est, je fuis ce domaine, je fuis la Pologne idéologique, je me retrouve frappée vraiment de deux choses. Vous êtes tous contre le communautarisme. La Pologne est un pays profondément communautarisme et je me suis intégrée en France, entre autres, parce que la Pologne m'a permis, la communauté polonaise, les grands immigrés polonais de 1830, de 1945, de 1980, ma propre communauté a existé ici et m'a permis, a permis à mes enfants de continuer à pratiquer ma culture, à parler polonais. Mes enfants parlent remarquablement polonais, pratiquent des institutions culturelles haut de gamme à Paris, ont pu aller à l'institution qui s'appelle Bibliothèque polonaise Lille Saint-Louis, ont pu écouter les gens qui étaient au Collège de France, qui s'appelait Mickiewicz, ont pu voir au Panthéon Marie Curie Skłodowska, que n'ont pas les jeunes Arabes en France. Donc je m'insurge quand j'entends que le communautarisme est l'inverse de l'idéal républicain français. Je ne comprends pas, parce que je vous signale que c'est grâce à l'ampleur et au combat de mes compatriotes d'avant, que je continue d'ailleurs dans mes propres recherches, pour valoriser l'apport des grands esprits venus d'autres cultures et devenus français, j'ai pu maintenir auprès de mes propres enfants, qui sont aujourd'hui, bien entendu, diplômés des bonnes écoles françaises, parce qu'on m'a dit très vite, avec l'opacité française avec laquelle je suis d'accord et j'ai compris grâce à vous, que les écoles publiques, c'est bien pour les enfants des autres. C'est un président d'une université française qui me l'a expliqué très vite. Donc j'ai compris très vite les codes et je me suis adaptée très vite pour moi-même et pour mes enfants. Pour vous dire à quel point, quand on dit qu'on ne fait pas de tri entre les immigrés, c'est complexe aussi. On fait un tri culturellement assez vite et il vaut mieux être blonde, polonaise, issue d'une famille universitaire, sans doute. Je pense que c'est plus facile de réussir comme ça, quand même. Donc ne soyons pas idéalistes dans ce modèle républicain. Je crois qu'on l'est un peu facilement dans les débats sur l'immigration, qui est quand même plus compliqué.
Donc vous défendez le modèle communautariste.
Alors, non, je ne défends pas le modèle communautariste. Non. Je pense qu'il ne faut pas faire des mots tabous. Il ne faut pas rejeter certains mots trop facilement. Signifie pas seulement l'intégration à l'anglo-saxonne et la ghettoisation. Il peut signifier autre chose.
Non, on a compris.
Je crois qu'il y a deux mots différents. Hein. Le mot communautarisme est effectivement un mot codé, qui a un sens spécifique lié à des modèles presque fédéraux d'État national. Et l'appartenance à des communautés est un autre concept. De même que le mot multiculturalisme, qui est en soi positif, est devenu un mot codé pour dire communautarisme. Donc effectivement, il y a des mots positifs qui sont employés, c'est le mot euphémisme qui le décrit, pour décrire une chose négative. Et quand on parle de communautarisme, ce n'est pas bien sûr l'existence de communautés, mais ce primat de la communauté sur tout autre que l'on entend critiquer.
Je crois qu'en la matière, enfin, effectivement, il y a des ambiguïtés tout à fait sur le terme, et en particulier la question des rapports entre la vie publique et la vie privée, au fond, en France, que dans sa vie privée, on s'associe vraiment à des gens qui vous sont proches, etc. Ce n'est absolument pas un problème. On n'appelle pas ça communautarisme. Et du reste, en France, finalement, même le culte des origines est quelque chose qui est tout à fait accepté. Moi, on passe mon temps à me faire remarquer que j'ai un nom basque, que je suis basque. Bah, ça ne veut pas dire que je sois un Français. J'ai été frappé. Il y a quelque temps, Le Monde a interrogé un chef d'entreprise brillant. Et après l'avoir interrogé sur son père et sur son grand-père, il l'a interrogé sur ses ancêtres, justement, polonais, qui, au XVIIIe siècle, avaient participé à des luttes pour l'indépendance de la Pologne, etc. La tendance du journal était plutôt même de regarder, et là, de manière positive, marquer que c'était, au fond, quelque chose de positif qui soit resté en rapport avec son ascendance polonaise. Et alors donc, font tout un rapport aux origines, qui est très présent dans la société française, n'est pas du tout regardé de manière négative. Ce qui est regardé de manière négative, c'est à partir du moment où cet attachement, en quelque sorte, à ses racines, et à cet attachement à une communauté, devient quelque chose qui va interférer avec la vie publique. Et qui va faire que, dans la vie publique, on va se mettre à part, que l'on va, par exemple, je sais pas, refuser à l'école de se comporter comme les autres élèves, qu'on va se mettre à refuser tel enseignement de philo, tel enseignement de biologie, etc. C'est à partir de ce moment-là que l'on rentre dans des problèmes. Et merci, disons, d'avoir clarifié au fond, cette notion avec toute son ambiguïté, qui effectivement ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez évoqué.